C'est à moi que tu parles?
Hein?
On dit pas un, on dit pardon.
Comme.
Oula.
Comme on écoute.
Je te parle, tu écoutes?
Comme on écoute.
La séance va bientôt commencer.
Quel bruit! Difficile de s'entendre et surtout de s'écouter, n'est-ce pas? L'écoute, le fil rouge de notre émission, toujours. Dans ce deuxième feuilleton, l'écoute parasitée, l'écoute face à l'esprit qui vagabonde, la place du regard dans l'écoute, le manque de temps, le culturel, la qualité d'écoute, les limites et enjeux de l'écoute, jusqu'où écouter, c'est tout de suite. Ariane, comment on écoute? Comment réagit-on au bruit?
Ah, le bruit. Bah, le bruit, c'est le vrai parasite de l'écoute. Si on est dans une situation où déjà on n'entend pas, comment écouter de manière qualitative? Et c'est encore plus vrai dans le cadre d'une écoute collective. Quand on est en groupe, qu'on doit prendre la parole devant un auditoire, s'il y a du bruit, bien évidemment, ça va être plus compliqué. Donc, ce qui est important, en particulier quand on s'adresse à un groupe de plusieurs personnes, c'est qu'il y a un respect mutuel et des conventions d'écoute entre l'auditoire et la personne qui s'exprime.
Vous étiez en train de parler du respect mutuel. Vous pouvez maintenant continuer.
Et ben voilà, le cas typique, une perturbation sonore qui me conduit à parler encore plus fort pour me faire entendre sur cette voix, ça c'est classique. Donc c'est vrai que c'est important d'adopter une posture silencieuse lorsque l'autre s'exprime, parce que le silence, c'est ce qui permet à l'autre de s'exprimer et d'avoir un temps d'expression suffisant. Et pour bien écouter, c'est vrai qu'il faut être concentré. Et la concentration, c'est quelque chose qui est parfois difficile à maintenir, à la fois sur le plan physiologique et sur le plan psychique.
En gros, si je vous comprends bien, on écoute mal parce que l'esprit vagabonde sur d'autres sujets?
Bah c'est vrai, soyons honnêtes. C'est arrivé à tout le monde. Quelqu'un nous parle et en fait, on est en train de se refaire le menu du soir où on se demande où est-ce qu'on a laissé les clés le matin en partant. Donc, on a parfois tendance à écouter notre propre voix plutôt que celle de l'autre. Donc il faut faire attention à ça. Et une des manières d'être attentif à ça, c'est vraiment d'être dans la bienveillance pour bien écouter l'autre.
Les limites de l'écoute sont aussi liées à ce qu'il se passe dans notre inconscient alors. Mais pas que, d'autres sens viennent aussi déranger la perception.
Regarde-moi, j'ai besoin que tu viennes.
Regarde-moi, je suis la phrase d'en bas.
Moi.
Comme.
Oula. Je te parle, tu m'écoutes?
Écoute-moi.
Le regard dans l'écoute. Nathalie, vous trouvez que la relation entre les deux sens est plutôt positive?
Cette relation est paradoxale. Un regard franc est l'un des signes qui permet de montrer que l'on est dans une posture d'écoute active. Ça permet de renvoyer des signaux positifs à son interlocuteur. Le regard témoigne de la concentration de celui qui écoute. C'est encourageant pour celui qui parle. En revanche, se concentrer principalement sur le regard peut altérer l'écoute. D'ailleurs, certains professionnels nous ont dit se mettre en position de repli, en fermant les yeux, afin de ne se concentrer que sur le son et que sur les paroles.
Opérateur du son.
Si on n'a pas les gens en face, on a le regard dans le vague. Du coup, on met tout sur l'audition. En fait, la vue peut être parasite, quoi.
La vue serait parasite à l'écoute. La place du regard dans l'écoute n'est-elle pas, en fait, pénalisante, Nathalie?
C'est en fait une bonne question à poser à nos auditeurs. Fermer les yeux pour mieux écouter, déjeuner dans le noir, pour être plus attentif? La vue n'est pas neutre lorsque l'on écoute et lorsque l'on utilise ses autres sens. D'ailleurs, ne pas voir ce que l'on mange modifie-t-il notre goût? D'une manière plus générale, la place de la vue dans la qualité de l'écoute n'est pas la même pour chacun. Alliée ou perturbatrice, la vue est un sens qu'il convient d'orchestrer savamment.
Et si l'écoute est si complexe, c'est aussi parce qu'il y a une portée pédagogique importante.
Professeur.
Je vois que je suis bien écoutée quand les regards accrochent. Quand il y en a un qui fait un dessin ou quelque chose d'autre, ça peut être trompeur. Il peut en fait écouter. Ce n'est pas facile d'évaluer le niveau d'écoute. C'est compliqué d'évaluer ce qui rentre vraiment dans leur cerveau aussi.
Être bien écouté, là, on parle de qualité d'écoute. Ça veut dire quoi, être bien écouté? Et surtout, comment peut-on savoir qu'on est bien écouté?
Je dirais que même s'il existe des grandes règles pour bien écouter, cette notion reste subjective et chacun a sa propre façon d'être attentif à l'autre. Pour certains, il y a une nécessité de se mettre en retrait, c'est une aide à la concentration. En revanche, pour d'autres, la vue permet, outre une preuve de concentration, de détecter tout le langage non-verbal, inconscient souvent pour l'orateur, mais généralement très révélateur.
Psst, tu crois qu'ils nous écoutent là?
Je sais pas, faut leur demander.
Vous nous écoutez toujours?
J'ai rien entendu. Est-ce que vous nous écoutez toujours ?
Bon, reprenons.
À Sahel, est-ce qu'on prend le temps d'écouter ?
Aujourd'hui, on prend de moins en moins le temps d'écouter. C'est lié aussi au temps de la prise de décision dans les entreprises qui est de plus en plus courte. Et comme la prise de décision est liée à l'écoute, l'écoute devient elle-même de plus en plus rare. Notamment, les nouvelles technologies et les outils de communication fragmentent énormément l'écoute. Ils fragmentent également l'attention, et l'attention étant liée à l'écoute et l'écoute liée à l'attention, on se retrouve avec une écoute très morcelée. Donc l'avenir est assez incertain concernant les relations humaines et la place de l'écoute surtout dans ces relations humaines.
Le temps, une approche différente en fonction des populations, tout comme la dimension culturelle. On parle différemment, donc on comprend et on écoute différemment aussi. Le chant du coq est l'une des nombreuses illustrations qui montrent toutes les différences des individus selon d'où ils viennent.
Conseil en management interculturel.
Les Français sont considérés comme ayant une communication implicite. Ils ne disent pas tout car ils pensent que l'autre est intelligent. Les Allemands, les Scandinaves, les Américains doivent décoder ce qu'on a supposé alors qu'ils ne savent pas bien décoder ce qui n'est pas dit. Les collaborateurs français ont également du mal à écouter les cultures asiatiques, japonaises, parce que pour garder la face, on ne peut pas dire les choses directement.
Oui, le culturel dans tout ça. Est-ce qu'il y a un impact sur la façon dont on écoute, à Sahel ?
Le culturel est primordial dans l'écoute. À la fois, on écoute à partir de son vécu, à partir de son histoire, et surtout, on écoute à partir de ses codes culturels et des codes culturels de l'autre. Donc, c'est pas vraiment un sujet de langue. C'est plutôt les éléments paralinguistiques qui entrent en action, la gestuelle, la proximité entre les deux personnes qui s'écoutent. Ce qui signifie que pour à la fois bien écouter l'autre et être bien écouté de l'autre, il faut parfaitement appréhender les codes culturels de son interlocuteur. Il y a en effet des éléments qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas écouter. Tout n'est pas écoutable et l'actualité récente nous montre que, par exemple, on ne doit pas écouter des présidents de la République d'un pays allié. Donc l'écoute nécessite l'autorisation de l'autre. L'autre doit me donner l'autorisation de l'écouter. Sinon, c'est une écoute qui est intrusive. Au final, on en arrive à concevoir quelque chose qui pourrait s'apparenter à une éthique de l'écoute, c'est-à-dire un cadre précis donné à l'écoute, avec des droits et des devoirs de celui qui écoute et de celui qui est écouté. Et tout ça peut concourir à une qualité d'écoute parfaite. Pour entrer pleinement dans l'écoute de l'autre, il faut forcément supprimer sa singularité. Il faut essayer de gommer ses codes culturels pour entrer dans les codes culturels de l'autre. C'est le seul moyen pour pleinement comprendre les nuances, les précisions, les éléments particuliers de l'autre.
Journaliste.
On n'écoute que si on est autorisé à le faire. C'est pas comme écouter aux portes où il y a quelque chose qui peut trahir, voire violer, et on n'est vraiment pas dans le respect de l'autre. En fait, moi je pars du principe que je ne peux écouter que ce que vous m'autorisez à écouter, je peux pas faire autrement. J'ai un souvenir précis d'une séquence à la radio où une personne, en raccrochant, m'avait dit que je ne l'avais pas aidée du tout, ou c'était une personne très en colère. En fait, cette personne appelait juste pour déverser sa colère et pas pour être écoutée.
Donc non, on ne peut pas tout écouter.
On ne peut pas tout écouter, et en matière de compétences écoute, on peut retenir que l'écoute est analytique, c'est-à-dire que l'écoute fait le tri, l'écoute hiérarchise. Donc, dans le sens le plus premier du terme, on ne peut pas tout écouter. Par ailleurs, le plus souvent, on écoute à partir d'une intention ou dans un objectif précis. Cet objectif ou cette intention crée une sorte de tamis qui fait que l'on va retenir ce qui est important pour nous et ne pas retenir ce qui apparaît comme secondaire.
On écoute, mais on interprète et on écoute avec parfois une incapacité à se raisonner, à maîtriser ses émotions.
Oh, 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 oh. Hey, Alex ! Alex !
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Viens, c'est moi, viens vite, 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 là !
Oh là 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 là, voilà, 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 voilà ! Je vais absent 2 minutes et tu trouves le moyen de foutre le feu dans la cuisine !
Mais n'importe quoi, je viens... Mais je viens d'arriver...
Viens-moi ça.
La qualité d'écoute dépend-elle alors des situations ?
L'écoute dépend des situations, mais plus encore des interlocuteurs. C'est-à-dire que l'écoute, la qualité de l'écoute dépend beaucoup de l'interlocuteur que l'on a en face de soi. Et il y a des gens qu'on ne peut pas et qu'on ne pourra jamais vraiment pleinement écouter parce qu'on ne peut pas rester neutre ou on ne peut pas rester bienveillant. Et l'écoute étant vraiment une relation à deux, avec une interactivité forte entre les deux personnes, il y a des situations qui ne permettent pas la qualité de l'écoute parce que, par exemple, on n'est pas assez empathique ou bien au contraire trop empathique. On prend trop sur soi le sujet des autres parce qu'ils font ce sujet fait écho à quelque chose que l'on a déjà vécu nous-mêmes. Et donc, l'impartialité de l'écoute devient alors impossible et bloque la qualité de l'écoute.
Empathie de celui qui écoute, un conseil parmi d'autres à retrouver dans la dernière partie. Rendez-vous dans quelques minutes.
C'est à moi que tu parles ?
Hein ? On dit pardon.
Comme.
Oula.